Les éclaireuses, on s'entend. Dans cette dernière chronique qui balaye le siècle depuis la naissance de la Fédération française des éclaireuses, on va s'intéresser à des professions comme infirmière visiteuse, surintendante d'usine, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, assistante sociale à... Tous ces noms nous disent l'histoire de la structuration des professions du travail social au XXe siècle. Et en fait, de nombreuses femmes passées par le scoutisme y ont participé. Cette chronique va tenter de donner quelques éclairages à ce sujet, sachant que je fais ça un petit peu à l'arrache. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises, mais je suis quand même nettement moins calée sur ce sujet-là que sur les deux chroniques précédentes. Au moment de la Première Guerre mondiale, on a l'émergence de deux métiers spécifiquement féminins, que sont les surintendantes d'usine et les infirmières visiteuses. Alors c'est quoi une infirmière visiteuse ? C'est l'idée de développer la fonction sociale des infirmières. Prend vraiment une dimension importante au moment de la Première Guerre mondiale, puisque au-delà des soins apportés aux blessés, notamment des blessés de guerre, les infirmières visiteuses, elles vont devenir les chevilles ouvrières des nouvelles luttes contre les fléaux sociaux, les maladies sociales donc liées à la proximité et à la contagiosité. C'est notamment une période où la tuberculose est très répandue, notamment dans les rangs de l'armée, mais du coup aussi dans le cadre des populations civiles. Et la tuberculose, c'est une maladie très contagieuse. Et donc la question sociale devient une question importante liée aussi à la réflexion sur les conditions de travail, les conditions de vie, les conditions d'hygiène, de logement, puisqu'on commence à comprendre que tout ça est propice à la diffusion de maladies à caractère social. L'autre métier qui émerge au même moment, c'est celui des surintendantes d'usine. Alors c'est pas simple de comprendre exactement c'est quoi les surintendantes d'usine. C'est des femmes qui en fait sont infirmières à l'origine. On leur donne la mission d'implanter des services sociaux dans les usines pour les femmes au moment de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire au moment où les femmes rentrent massivement dans les usines, avec la mission de promouvoir une organisation du travail qui protège et en même temps encadre les ouvrières contre les risques professionnels. Donc à la fois, elles doivent un peu organiser le travail des femmes, mais aussi mettre en place des services comme des infirmeries, des crèches, des cantines dans les usines. Donc c'est à la fois un poste d'encadrement un peu à l'interface entre les patrons et les ouvrières, mais qui est tourné vers les besoins sociaux des ouvrières. Une des figures vraiment très importantes de ces deux professions, donc les infirmières visiteuses et les surintendantes d'usine, c'est Marie Diemer. Marie Diemer, c'est une femme qui est issue d'une famille protestante bourgeoise qui découvre lors d'un voyage à Londres un truc qu'on appelle un settlement social, c'est-à-dire un lieu qui est situé dans un quartier ouvrier et qui permet à des personnes bourgeoises d'y vivre et de partager leur savoir ou leur temps pour aider les plus pauvres. Donc si vous avez suivi la première chronique sur la naissance du scoutisme féminin, ça vous rappelle un peu un truc, c'est un peu la même démarche que celle qui a donné naissance au scoutisme féminin. En tout cas, lors de cette visite à Londres, elle prend conscience de la situation sociale en France. Quand elle rentre au Congrès international des femmes, elle rencontre Renée de Montmort qui va devenir sa grande copine et ensemble, elles vont commencer à participer de manière hyper active à la création de ces deux professions. Donc notamment, en 1914, elle participe à l'Assemblée générale constitutive de l'Association des infirmières visiteuses de France et elle commence à créer un dispensaire de lutte anti-tuberculose à Paris. En 1917, juste après, elle participe à la création de l'école des surintendantes d'usine dont on a parlé, qui d'ailleurs sera la première école laïque, on va dire, de travail social en France. Un peu plus tard, Marie Diemer, pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'en fait, elle n'a pas été éclaireuse, mais elle a été guide. Et notamment, en fait, elle découvre le scoutisme pendant la Première Guerre mondiale et elle commence à vouloir développer le scoutisme pour les filles un petit peu avant la fondation des guides de France. Dès 1922, elles organisent ensemble des camps internationaux de scoutisme féminin en France, avec à l'époque les éclaireuses qui viennent de naître et les guides qui ne sont pas encore nés et qui naîtront qu'en 1923. Marie Diemer, c'est aussi elle qui, en 1925, crée au sein des guides de France la branche des Jeannettes, c'est-à-dire la branche des Louvettes chez nous. La profession d'infirmière visiteuse, elle va se développer jusque dans les années 30. En 1932, va être créé le diplôme d'État d'assistante sociale. Et en fait, la profession d'infirmière visiteuse va devenir la profession d'assistante sociale à cette période-là. En ce qui concerne le métier des surintendantes d'usine, une femme qui a joué un rôle important dans ce métier-là, c'est Jeanne Civadon. Jeanne Civadon, elle est d'une ancienne famille protestante d'Ariège. Elle est éclaireuse neutre, donc à la Fédération française des éclaireuses. Elle est aussi cheftaine. Et elle entre à l'école des surintendantes d'usine et elle dirige ensuite une maison pour enfance en difficulté. Et à partir de 1933, elle devient formatrice à l'école des surintendantes d'usine. Et elle en devient même après directrice à partir de 1939. Jeanne Civadon, elle va avoir comme particularité de faire de l'école qu'elle dirige, qui est une grande école des surintendantes d'usine en France, un peu une sorte de centre de liaison et de coordination de plein de groupes résistants et résistantes pendant la guerre. Et du coup, ça fera aussi qu'elle deviendra membre du comité directeur du mouvement Combat en zone nord, qui est un des principaux mouvements de la résistance. Jeanne Civadon, elle sera aussi chargée de la création du diplôme d'État de surintendante d'usine. Et en fin de carrière, elle dirigera le service social des trois armées françaises. Une autre profession qui se structure au fil du XXe siècle, c'est celle d'éducateur éducatrice spécialisée. Là, la structuration est particulièrement complexe, notamment parce qu'en fait, il y a plein de champs d'intervention différents, le handicap, la protection de l'enfance, la prévention, etc. Donc j'ai un peu du mal à tout résumer. Globalement, à partir des années 1920-1930, il y a l'émergence d'une idée de nécessité de professionnels spécifiques pour accueillir, observer et aussi trier des enfants confiés à des institutions, soit parce que c'est des enfants dits délinquants, on va parler de l'éducation surveillée, soit parce que c'est des enfants qui ont besoin plus de protection parce qu'ils ont un handicap ou parce qu'ils sont orphelins ou que leur famille ne s'occupe pas d'eux. Donc ça va s'appeler plutôt l'enfance inadaptée. Dans ce bouillonnement de tentatives, de courants pour essayer de professionnaliser cette fonction-là, il y a des éclaireuses aussi et des femmes passées par le scoutisme qui s'impliquent. Pour citer le parcours de l'une d'entre elles, il s'agit de Dominique Ril. Donc elle est éclaireuse unioniste à Strasbourg. D'abord, elle est institutrice et elle se forme à la psychologie. Elle va vouloir réformer les maisons de rééducation pour jeunes filles en recrutant des femmes issues du scoutisme pour les postes auprès des enfants, d'encadrement des enfants, à la place d'un personnel qui est plutôt pénitentiaire. Elle met aussi en place un système d'équipe de vie, comme les équipages aujourd'hui, avec les jeunes filles pour essayer de développer la vie au sein de l'institution. Plus tard, elle sera membre de commissions consultatives sur l'enfance délinquante et socialement inadaptée, et elle sera aussi inspectrice d'établissement pour l'éducation surveillée. Une autre femme qui joue un rôle dans l'émergence bouillonnante de cette profession d'éducateur éducatrice spécialisée, c'est Germaine Le Guillan. Donc elle est née dans une famille pauvre de pêcheurs en Bretagne. Elle devient cheftaine d'éclaireur aux EDF et elle passe ensuite directrice d'une maison d'enfants pendant la guerre, une maison qui est soutenue par le régime de Vichy mais dont elle fait un lieu pour cacher des jeunes enfants juifs. Après la guerre, elle s'engage au CMEA, les centres d'entraînement aux méthodes actives, qui sont aujourd'hui une des principales associations de formation BAFA BFD en France et qui ont une histoire commune avec les éclaireurs de France. À cet endroit-là, comme le secteur donc, de l'enfance inadaptée, de la protection de l'enfance est en structuration, les CMEA décident d'ouvrir des maisons d'hébergement pour des jeunes orphelins. Et Germaine Le Guillan, elle va tenter l'extension sur 3 mois, du stage de formation habituel des moniteurs de colonies de vacances pour former ces moniteurs-là à devenir des moniteurs éducateurs spécialisés pour les enfants placés. Germaine Le Guillan, elle est aussi intéressante parce qu'elle contribue à l'émergence d'une autre profession dont on n'a pas encore parlé, qui est celle d'infirmier ou infirmière psychiatrique. En fait, avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas d'infirmiers, infirmières psychiatriques. Globalement, il y a des gardiens d'asile. On est sur une psychiatrie qui est basée sur l'enfermement dans des établissements qui s'appellent des asiles. Donc après-guerre, il y a des psychiatres militants qui, eux, vont vouloir essayer de faire sortir la psychiatrie des établissements, d'ouvrir la psychiatrie vers la ville. C'est ce qu'on va appeler le mouvement des aliénistes. Et dans cette démarche-là, ils vont vouloir notamment créer une réelle formation pour les infirmiers psychiatriques pour avoir un personnel soignant, compétent et pas des gardiens d'établissement. Germaine Le Guillan, elle est salariée des CMEA et en 1946, elle rencontre un psychiatre qui s'appelle Georges Daumaison, qui se trouve être aussi passé par le scoutisme. Il a été éclaireur unioniste et ensemble, ils décident de créer en 1949 le premier stage de formation des infirmiers psychiatriques en France. C'est vraiment un stage qui est basé sur la logique des stages BAFA. Donc, c'est un stage où on mêle l'apprentissage de la vie quotidienne en collectif, comme en stage BAFA, avec l'idée que la vie quotidienne au sein d'un établissement psychiatrique, c'est important pour le soin et pour l'accompagnement des patients. Et en parallèle de ça, il y a des apprentissages plus spécialisés sur les questions de santé mentale et de psychiatrie. C'est des stages qui ont beaucoup de succès, qui contribuent vraiment à la création de la formation et de la profession d'infirmier psychiatrique en France. Globalement, ces différentes professions qui se structurent au fil du XXe siècle sont assez marquantes d'un processus de professionnalisation d'activités qui étaient traditionnellement féminines et qui soudainement deviennent des métiers, des professions. Les guides et les éclaireuses dont j'ai parlé, elles s'impliquent tout particulièrement dans la création d'écoles et de lieux de formation au-delà de l'organisation de la profession, avec cette idée que le bénévolat féminin ne suffit plus dans ce domaine-là et qu'il convient de faire de ces questions sociales une occupation professionnelle.